Voilà. À vous de la parole. Alors, je, en attendant que vous réfléchissiez un peu s'il y avait des questions, comme on m'avait posé, j'ai mal répondu, on m'avait posé la question des sectes et des religions, la différence entre sectes et religions. Alors, je crois que il faut donner quelques éléments, et je les ai recherchés dans les différents documents et ouvrages que j'avais à ma disposition. La première différence, me semble-t-il, c'est que la secte, ça renvoie. Alors, il doit sans doute y avoir des choses communes au départ, au niveau de l'étymologie. Point de vue étymologique, le mot secte vient du latin secta, c'est une voie qu'on suit. Après tout, une religion, c'est également une voie qu'on suit, puisque c'est comme une doctrine philosophique, etc. C'est le verbe latin secti qui signifie suivre. Mais le mot secte en grec, c'est pas simplement donc suivre, en grec, ça se dit hérésis. C'est-à-dire que c'est à l'origine du mot hérésie. Donc, vous le voyez, il y a une ambiguïté. C'est à la fois quelque chose que l'on suit, une doctrine philosophique, une conviction religieuse que l'on suit. De notre côté, par rapport à la norme, c'est quelque chose qui est hérétique, qui est contradictoire. Voilà le double sens du mot secte. Et selon les sociologues allemands Weber et Troeltsch, on pourrait définir la secte comme un groupement religieux extrémiste, intransigeant et en rupture avec la société. Alors qu'une religion, c'est une institution du salut qui veut avoir des relations avec l'État. La preuve, on vient d'essayer de montrer d'ailleurs comment ça avait été compliqué, la séparation entre les églises et l'État. Le mot secte, dans cette acception-là, c'est une opposition au type église. Voyez donc ce que je dis. Voilà. Donc, déjà au niveau de l'étymologie et de l'origine du mot. Cela étant dit, après, il y a des tentatives de définition qui sont liées, effectivement, au type d'organisation sectaire qui peuvent exister en France, depuis en France et dans le monde d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années. Et il y a une commission qui s'appelle la MILU, je crois, ou quelque chose comme ça, ça s'appelait la MILU savant, qui effectivement étudie les éléments typologiques qui fondent une secte. Et là-dedans, on a quelques éléments que je veux vous rappeler, tout simplement. Ce qui caractérise au niveau des critères une secte par rapport à la religion, c'est la manipulation mentale. Là, une manipulation mentale, donc essayer de manipuler les gens à partir de leur mental. Et puis, une technique d'endoctrinement et une technique de destruction de la personnalité. Sur la technique d'endoctrinement, je répète simplement les rapports, le rapport Vivien à cet égard. C'est une technique d'abord cognitive. C'est un message qui est simple, voire même simpliste. L'auditeur est soumis à un véritable bourrage de crâne sur ce message simpliste. C'est la technique cognitive de l'endoctrinement. Deuxièmement, c'est la technique comportementale. La technique comportementale, c'est on fait accomplir par les gens qui sont dans la secte au début des actes anodins et qui sont de plus en plus accaparants, donc qui brisent la personnalité, l'autonomie de la personnalité. Le libre arbitre finit par ne plus exister. C'est la deuxième forme d'endoctrinement. La troisième forme, c'est la forme affective liée à la personnalité du gourou. La secte Moon ou la secte Guyana, je crois, dans les années 78, c'est gens qui s'étaient, les 800 ou 700 qui s'étaient suicidés collectivement, etc. Les gens arrivent à être complètement déstructurés et reconstruits par la secte. Ça, ce sont les éléments d'endoctrinement qui vont de pair avec la manipulation mentale qui aura pour vivre. Et ensuite, il y a des éléments de destruction, destruction de la personne. Et on le voit à travers ce que je viens de dire. Destruction de la famille, c'est-à-dire quitter sa famille ou l'abandonner ou avoir un comportement agressif vis-à-vis de sa famille et, par la même occasion, détruire la société, c'est-à-dire soit on infiltre la société, soit on la rejette. C'est-à-dire, soit on s'y plonge dedans et on essaye de la noyauter, soit on la rejette et on dit cette société est complètement mauvaise. C'est une vieille, d'ailleurs, tradition que les catholiques avaient baptisée d'hérétique. Le monde est pervers, le monde est mauvais. C'était le message du catharisme au XIIe siècle. Et puis, les sectes se fondent sur, dit le rapport Vivien, une triple escroquerie. L'escroquerie intellectuelle, on le comprend, puisque les fidèles de ces sectes sont trompés sur le message même, sur ce qu'ils viennent chercher. Ils posent de vraies questions, on leur apporte des réponses qui sont biaisées ou fausses. Une escroquerie morale, puisque, en règle générale, il y a dans les sectes, dans un certain nombre de sectes en particulier, des actes de perversion morale, voire sexuelle, qui sont avérés, et une escroquerie financière, ça qui a été calculé et montré par toute une série de rapports de la Cour des comptes, à travers notamment l'Église de Scientologie, mais ce n'est pas la seule. Voilà donc quelques éléments pour distinguer, me semble-t-il, manipulation mentale, technique d'endoctrinement et escroquerie ne me paraissent pas relever de la forme religieuse, mais d'une forme qui a pu, à un moment donné, revêtir le masque de la religion pour essayer de tromper un certain nombre de gens. D'ailleurs, c'est ce que disait Alain Vivien dans un discours qu'il prononçait à Barcelone. Il disait « La difficulté de reconnaître et de dresser une typologie des sectes, c'est le fait qu'elles se couvrent du manteau de la religion. » Voilà les quelques indications que je voulais vous donner par rapport à ce que je ne vous avais pas donné la dernière fois. Mais on peut continuer, nous avons encore le temps, si vous n'êtes pas trop assommé, sur les différents aspects que j'ai traités.
J'ai une question par rapport au calendrier. Est-ce que, à votre connaissance, il a été envisagé à un moment donné de créer un calendrier laïque?
Oui. Parce que la Révolution française, le calendrier laïque, c'est tout.
Mais depuis la loi de 1905, nous restons avec un calendrier chrétien, et il est difficile de parler de neutralité dans ces conditions. Je pense aux établissements scolaires où les vacances, ce sont les vacances de Noël, les vacances de Pâques, et que ça crée quelques conflits qui ne font qu'augmenter par rapport à l'islam, le ramadan, etc. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a une ambiguïté.
Alors, une des propositions de la commission Stasi qui n'a jamais été suivie des faits, on a suivi que la forme répressive, ce qui, à mon avis, d'ailleurs, montre que c'était une tentative d'instrumentalisation d'un phénomène à un moment donné. Même si le problème est réel, le port du voile, je le dis, mais une des propositions de la commission Stasi, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas que les fêtes chrétiennes qui puissent être fêtées ou commémorées, mais qu'il y ait également un certain nombre d'autres fêtes correspondant au pluriculturalisme de la société française. Je pense que c'est la seule solution, parce que sinon on risque de tomber effectivement dans ce qu'expliquait dans une précédente séance Michel Naudin et Claude Mazeric à propos de la religion civile. La laïcité, ce n'est pas une religion civile, c'est l'équidistance vis-à-vis de toutes les confessions. Il se trouve effectivement, qu'on le déplore ou qu'on s'en loue, que nous vivons dans une société qui a été profondément modelée par le christianisme. Et pas que par le christianisme. Également par d'autres philosophies, par d'autres courants philosophiques. Ce qui explique que si on peut parler des héritages religieux en France, par exemple, dans un calendrier, on peut parler aussi des héritages philosophiques qui sont non-croyants, les héritages, par exemple, de la philosophie des Lumières. Encore la philosophie des Lumières, il y aurait à faire des distinctions là-dedans. C'est-à-dire, ou le message humaniste. Ça veut dire qu'effectivement, je crois que ça doit être moins en termes de contraintes qu'en termes d'ouverture. Moi, c'est ma conviction. Que les choses doivent se poser. La loi de 1905, elle a établi une séparation. elle n'a pas porté de jugement sur la foi ou sur les religions. Elle s'est tenue avec une sagesse neutre, disait les latins, neutre, ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas ce que fait l'actuel président de la République. C'est ce que faisait davantage l'ancien président de la République, Chirac. De ce point de vue, on peut le dire, même si on ne partage pas forcément ses options politiques, qui sont les mêmes d'ailleurs que celles de l'actuel président, mais ça peu importe, il s'est tenu à l'écart, effectivement, de, ses, de la prise de parti. Il n'est pas allé dire à Saint-Jean-de-Latran, je suis catholique et vous êtes... Enfin, dans le discours de Latran, il y a même une phrase de Sarkozy qui dit « Mais en vous voyant, messieurs les cardinaux, messieurs les évêques, je comprends ce que c'est la vocation. Parce que moi, je l'ai eu quand j'étais jeune. » Alors, c'est pas la même, évidemment, parce que j'ai parti me faire pape ou cardinal. J'ai voulu être président de la République quand j'avais 12 ans, ou 13 ans, ou 15 ans, je ne sais rien, ou 20 ans. Bon, c'est absolument hallucinant qu'un président de la Côte de l'argumentation qui est plutôt médiocre, me semble-t-il, intellectuellement. C'est quand même hallucinant qu'un président de la République, laïque, démocratique et sociale, puisse tenir de pareils discours. C'est pas la même chose que de dire la France a effectivement aussi un héritage religieux. Aussi, pas seulement. Personnellement, je pense qu'elle a un héritage religieux. Mais elle n'a pas que cet héritage religieux. C'est la France, à la fois de la cathédrale de Chartres et de Rousseau. C'est la cathédrale, c'est la France du courant athée et libertin, de Gassendi ou de Cyrano de Bergerac, comme l'on voudra, et c'est la France de Péguy. Mais moi, je pense que ces deux Frances-là peuvent parfaitement coexister, qu'on peut parfaitement les enseigner de manière libre. La question du calendrier, bon, je pense pas qu'elle soit absolument décisive, parce que, au fond, d'ailleurs, les chrétiens, ils le disent, Noël, c'est pas la naissance du Christ, c'est une fête qui est devenue, combien de fois vous l'avez entendu dans le langage du café de commerce, on connaît une fête païenne, c'est une fête de consommation, c'est une fête consumériste. Bon, effectivement, mais je pense pas que les églises, à part la messe de minuit, mais c'est quand même un rituel, hein, c'est quand même un rituel, hein, bon, je pense pas qu'il y ait quand même une très grande... Il n'y a pas de cléricalisation de la société, il y a eu... Enfin, du moins, c'est ma conviction, on peut ne pas la partager. Je pense qu'il y a une grande sécularisation de la société française. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la sécularisation ? C'est quand on considère que la religion n'est plus l'élément moteur explicatif du sens de la vie en société. Mais ça, c'est le cas aujourd'hui.
L'ascension, la Toussaint, c'est quand même des jours fériés chrétiens.
Oui, mais attendez, je n'ai pas contesté que l'Ascension et la Toussaint, ce soit des... Oui, l'Assomption dans le 15 août, ça... Enfin, non, ça alors... l'Ascension, si vous voulez... Enfin, interroger la majorité des jeunes aujourd'hui, demandez-leur ce qu'est l'Ascension.
Mais peu importe, les gens musulmans le ressentent comme ça, en tout cas.
Oui. Ah non, mais je ne dis convient pas que ce soit un problème qu'on puisse se poser comme un problème. Je ne pense pas que ce soit un problème personnellement, mais bon.
Mais je pense quand même que ça peut, à un certain moment, rendre certains faits religieux avérés. Enfin, je pense qu'on peut confondre certains faits religieux avec des faits historiques. Je pense, récemment, on a fêté le bicentenaire de l'apparition de la Vierge, je ne sais plus exactement, parce que je n'ai pas de culture à ce niveau-là, mais moi j'avais été choquée de
la Vierge
manière...
La Vierge à Lourdes, oui,
voilà.
Oui, 1858.
J'avais été choquée de la manière... De la manière dont c'était présenté dans les médias, comme un fait avéré. On ne nous a pas dit Bernadette pense avoir vu, on nous a dit c'était l'apparition de la Vierge. Donc il me semble quand même que...
100% d'accord avec vous, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il faut enseigner le fait religieux, et qu'il faut l'enseigner de manière scientifique, pour montrer effectivement qu'il y a eu, en 1858 à Lourdes, une jeune femme qui a pensé voir apparaître la Vierge dans la grotte de Massabielle. Et que, effectivement, il y a eu à partir de là une authentification par l'Église catholique et compagnie. C'est une croyance religieuse, on n'est pas obligé de la partager, on peut l'expliquer scientifiquement dans les conditions de l'époque, je ne serais pas capable forcément de le faire maintenant. De là à l'expliquer en disant c'est une superstition, ça serait de l'anticléricalisme. De dire ça peut s'expliquer historiquement parce que c'est un phénomène de piété, ça intervient dans un milieu déterminé, auprès d'une jeune femme, dans des conditions bien particulières, etc., etc., qu'on peut décrire, je crois qu'on a le devoir de le faire. Cela dit, ne pas présenter ça comme étant une vérité révélée, un fait historique avéré. Je répète, il y a ce que vous venez de dire me fait une fois de plus penser au début de La femme du boulanger de Marcel Pagnol, où le curé et l'instituteur se rencontrent, et le curé reproche à l'instituteur d'avoir dit « Jeanne d'Arc croyait entendre des voix ». Et il lui dit « Vous n'avez pas le droit de dire qu'elle a cru entendre des voix ». Et alors l'instituteur lui répond « Mais écoutez, j'y étais pas, donc je ne sais pas si elle les a entendues. » Et puis de toute façon, il y a un évêque qui s'appelait Cochon qui lui a reproché la chose en lui disant « Vous n'avez pas entendu les voix ». Et comme elle était combustible, la petite bergère, elle a brûlé. Hein, voilà ce qu'on raconte, c'est très marrant d'ailleurs. Donc je pense qu'effectivement, on ne va pas se quereller sur cette affaire-là de savoir si elle a eu ou non les apparitions. Il faut l'expliquer comme un fait historique et un fait rituel dans la religion catholique. Voilà, point barre. À mon avis, le phénomène de pèlerinage, c'est un phénomène qui est très ancien, de la même manière que le pèlerinage de la Mecque ou d'autres types de pèlerinage. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous de ne pas... D'où la nécessité, effectivement, d'avoir l'enseignement du fait religieux. Parce que si on n'a pas l'enseignement du fait religieux, effectivement, on prend les choses comme étant, comme allant de soi. Même chose sur le baptême de Clovis et les 1500 ans. La France existerait à partir du baptême de Clovis. D'abord, si Clovis s'est baptisé, ce qui est vrai, mais c'est pour des raisons politiques. Hein. C'est pour des raisons politiques, parce qu'il avait besoin, pour asseoir son pouvoir face aux invasions germaniques, de l'appui de l'Occident chrétien à l'époque et de l'appui de la papauté, tout simplement. Alors de là à dire que Dieu des chrétiens, si tu me donnes la victoire, vous savez, on raconte ça dans la vie, hein. Dieu des chrétiens, si tu me donnes la victoire, je me convertis, il a eu la victoire et il s'est converti, bon, c'est des momeries au bout d'un moment, il ne faut pas s'arrêter là, il faut expliquer politiquement et historiquement le sens, quand je dis politiquement, c'est bien volontaire, c'est un acte politique de la part de Clovis, c'est pas un acte de foi religieuse. En tout cas, si c'est un acte de foi religieuse, là je répondais comme Pagnol, l'instituteur de Pagnol, j'y étais pas. Je vous en prie.
Oui. Est-ce que vous pourriez...
Si vous pouvez avoir le micro, ça sera mieux pour
que... Je parle assez fort.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment s'est passé que les ecclésiastiques ont arrêté en France de porter le vêtement particulier?
C'est à partir du Vatican II.
Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu?
Ah ben, tout simplement, le Concile Vatican II a été... Alors, bon, ça permet de revenir un petit peu sur le Concile Vatican II. À la mort du pape Pie XII, qui avait régné de 1939, c'est ce qu'on appelle le règne, de 1939 à 1958, et qui avait été un règne particulièrement conservateur au niveau de l'Église, enfin réputé comme tel, comblé par les historiens de l'Église, et qui avait été marqué en plus par un certain nombre de critiques assez véhémentes, de reproches faits au silence du pape pendant la guerre, notamment sur l'extermination des Juifs, sur la Shoah. Donc, quand Pie XII meurt en 1958, le Sacré Collège élit, les cardinaux élisent ce qu'ils pensent être un pape de transition, qui s'appelle le cardinal Ange-Joseph Roncalli, qui a été le représentant du pape à Paris, sous la 4ème République, et qui est considéré comme... Bon, il a beau être âgé, il a 76 ou 77 ans à l'époque, est considéré comme étant un traditionnaliste, mais sans excès, quoi. Même si on peut, c'est surtout un bon vivant, on l'a vu surtout dans les grandes réceptions de la République, en fait. Et il s'avère les cardinaux l'ont élu parce qu'il est âgé, et ils disent, bon, ça sera un pape de transition, on vient d'avoir un règne de 20 ans, donc il vaut mieux élire quelqu'un qui est assez âgé, on ne sait jamais, effectivement, on peut aller jusqu'à 95 ans. Bon. Le pape Léon XIII, il n'y avait plus que 92, je crois. Bon, mais il les élise donc Roncalli. Il a 77 ans. Bon, voilà, ça permettra de prendre un peu de temps pour. Et la première des choses que fait Roncalli, c'est en 1959, il dit voilà, bon, ben, j'ai eu une révélation divine il faut que je convoque, il le dit à Saint-Jean de Latran d'ailleurs, qui est sa propre basilique, et il raconte au Sacré Collège, à la Curie, qu'il a eu une révélation, qu'il faut qu'il organise un concile. Il n'y a pas eu de concile, c'est-à-dire de réunion générale de l'Église, depuis 1870, c'est le concile Vatican I qui s'est tenu à Rome au moment où il y avait l'indépendance italienne avec Pie IX, les problèmes liés à la séquestration du pape dans le Vatican et compagnie. Donc il va y avoir le concile Vatican II qui va s'ouvrir à partir de 1959 et qui durera 6 ans. Il durera jusqu'en 1965. Il sera poursuivi par le pape Jean XXIII de 1959 à sa mort en 1963, et par le pape Paul VI qui lui succède de 1963, et c'est Paul VI qui fermera le concile, déclarera la clôture du concile en 1965. Et alors, le concile, c'est... Bon, moi je me suis payé, si je puis dire, entre guillemets, la lecture des travaux du concile, parce que j'ai travaillé sur l'histoire religieuse. C'est pas toujours très agréable à lire, mais... parce que ce sont souvent des textes théoriques qui font beaucoup de références à des choses que je ne connais pas forcément, mais ce qui est important, c'est qu'il y a dans ces travaux du Concile, c'est-à-dire une assemblée universelle des évêques, qui avaient tous le même pouvoir par rapport à la hiérarchie vaticane. C'est-à-dire que tout le monde était là. Le pape leur avait dit, vous parlez, vous dites ce que vous avez à dire. Il y a eu des groupes de travail intenses, il y a eu effectivement une grande réflexion, ce qu'on appelait l'aggiornamento, le nouveau cours, si vous voulez, l'ajournement de l'Église. Et il y a notamment dans les travaux de Vatican II ce qu'on appelle plusieurs constitutions, c'est-à-dire plusieurs chapitres d'un livre de doctrine. Et les livres de doctrine s'appelant donc chacun des constitutions conciliaires. Il y en a une qui s'appelle Gaudium et Spes, c'est-à-dire en latin la joie, donc en latin Gaudium et Spes, et en français la joie et l'espérance, c'est toujours les deux premiers mots, comme pour les encycliques des papes. Et ça s'appelle la constitution conciliaire, l'Église dans le monde de ce temps. Et lorsqu'on lit ça, effectivement, on s'aperçoit que tout ce sur quoi reposait la tradition ecclésiale, la tradition de l'Église catholique, a été totalement bouleversé par cette constitution conciliaire. Dont l'un des aspects m'apparaît uniquement symbolique, relativement mineur par rapport à d'autres, ce qui ne veut pas dire de détails, mais relativement mineur par rapport à d'autres, qui est la possibilité pour les ecclésiastiques de se vêtir comme tout un chacun, avec un col particulier, et éventuellement une croix un peu plus approfondie pour les évêques, etc. etc. Bon. Mais il y a effectivement dans l'Église, dans la Constitution conciliaire de l'Église en ce temps, dans Gaudium et Spes, véritablement une relecture de la société moderne qui méritait d'être faite par l'Église. L'Église a compris, l'Église catholique a compris que la crise des vocations, la perte de la foi, l'éloignement des jeunes, etc., ça correspondait en même temps que s'individualiser, ce que dit Bobéro, s'individualiser la religion. Chacun fait sa religion à sa carte. L'Église ne pouvait le récupérer, ce mouvement-là, et c'était le souhait de l'Église catholique, comme de toutes les Églises, qu'en étant plus ouvert sur le monde moderne. Et donc, c'est à partir de là, à partir de Vatican II, qu'il y a la suppression de la messe en latin, et la messe dans le langage, dans la langue de la nation considérée, qu'il y a la suppression de l'obligation de porter dans la vie courante, le vêtement ecclésiastique, c'est-à-dire la robe, voire la cornette quand on est une religieuse, etc., etc. Mais ça, ce sont, disons, des choses symboliques. En fait, c'est la lecture de la place de l'Église dans le monde de ce temps. J'ai cité tout à l'heure très rapidement ce qui s'est passé entre 1949 et 1954 avec la mission de France et les prêtres ouvriers. C'est sous Pie XII que ça s'est passé. On reprochait aux catholiques, aux prêtres catholiques qui allaient en usine, chez Citroën, chez Peugeot, chez Renault, d'être davantage des ouvriers que les prêtres. C'est-à-dire de finir par voter communiste ou par voter socialiste, d'être syndiqué à la CGT au lieu de l'être à la CFTC. Et c'est là-dessus qu'il y a eu les coups de crosse des évêques français, du cardinal Suard en particulier, mais aussi du pape Pie XII, et puis donc vous réintégrez tous les prêtres qui étaient dans les usines, réintègrent, etc. ça, avec Vatican II, la question ne se pose plus de cette manière-là. Par exemple, le rapport entre les catholiques et la politique a été profondément changé par Vatican II. Mais pour cause d'ailleurs, parce que l'Église catholique se rendait compte, dans l'Italie des années 1960, que l'immense majorité des fidèles catholiques votaient en partie pour la démocratie chrétienne et l'autre partie pour le Parti communiste, qui était à l'époque le plus puissant parti communiste d'Europe occidentale, qui a disparu complètement maintenant, qui est mélangé au centre-gauche, etc., etc. Donc, il y avait cet aspect-là. Écoutez, c'est peut-être caricatural, mais regardez la série des Don Camillo. C'est l'Église italienne. C'est l'Église italienne de cette époque-là. C'est l'Église italienne alors, des années 50, là, parce que c'est la période stalinienne. Mais vous savez qu'il y a une série, ça se termine même, Don Camillo qui s'en va à Moscou, vêtu à je ne sais pas quoi, etc., au moment de la... du licenciement ou de la révocation de Brejnev, pas de Brejnev, de Kouchner, non, Brejnev, je crois donc que c'est peut-être en 64 ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas, à cette époque-là. Mais sinon, l'Église post-conciliaire. Et, précisément, vous avez bien fait de poser la question, c'est un retour en arrière. Moi, je n'hésite pas à l'affirmer, bien entendu, je l'affirme en tant qu'historien, non pas en tant que catholique, parce que je ne le suis pas, et je ne suis pas croyant, je ne suis pas catholique même d'origine, mais ce qui vient de se passer avec Benoît XVI et la réintégration des évêques de la fraternité Saint-Pilis, la levée de l'excommunication, c'est effectivement une régression par rapport au Vatican II. Parce que, et c'est là où c'est lié d'ailleurs à la loi de 1905, la loi de 1905 a créé des associations culturelles. Les catholiques l'ont refusé. En 1923, on a accepté qu'il crée des associations diocésaines qui sont obligatoirement présidées par l'évêque. Très bien. L'Église catholique a pensé que ça la garantissait contre toute manœuvre de division interne, et parbleu. Sauf que Monseigneur Lefebvre était évêque des Cônes et a créé une association culturelle intitulée la Fraternité Saint-Pilis. Et il a fallu, pour que les catholiques n'aillent plus vers la fraternité Saint-Pilis, que Jean-Paul II excommunie l'évêque des Cônes, Mgr Marcel Lefebvre, et tous ceux qui avaient été ordonnés prêtres ou évêques par le même Marcel Lefebvre. Et c'est ce que vient de faire Benoît XVI. Benoît XVI, il vient de lever cette excommunication. Ça veut dire que les gens qui avaient créé une association dissidente de l'Église catholique en fonction de la loi de 1905. C'est ce qui est curieux. Une association diocésaine. Eh bien, ces gens-là sont réintégrés dans l'Église. Donc, ça, c'est une parenthèse que je referme sur 1905. Ce qui se passe, c'est que la fraternité Saint-Pilis et Mgr Marcel Lefebvre ont voulu nier l'enseignement de Vatican II, c'est-à-dire l'ouverture au monde tel qu'il est. Il n'y a vraisemblablement qu'un seul aspect sur lequel Vatican II n'a pas été progressiste, c'est un aspect majeur d'ailleurs, puisque c'est l'aspect qui provoque aujourd'hui les incidents que l'on sait avec les propos de Benoît XVI sur le préservatif. C'est l'encyclique pour Humanae Vitae de 1968 sur la régulation des naissances, le port du préservatif, etc., etc., l'avortement et tout ce que l'on voudra, avec toutes les questions concernant la sexualité, où le pape Concile Vatican II est resté figé, comme sur le mariage des prêtres, au message de la tradition. Tout le reste, lorsqu'on lit les textes du Concile, ont ouvert l'Église sur le monde moderne, et en particulier dans l'appréciation des événements internationaux. C'est quand même assez important qu'un pape, que l'autorité morale que représente un pape, même si on ne croit pas, c'est une réalité, indépendante de l'opinion qu'on peut en avoir, puisse se prononcer contre la guerre du Golfe ou la guerre en Irak, ou contre la bombe atomique, etc., etc. Même s'il y a aussi des contradictions. Par exemple, le catéchisme de l'Église catholique, il y a l'approbation de la peine de mort, ce qui est contraire au message évangélique à l'évitance. Oui, je vous en prie. Est-ce que j'ai répondu à votre curiosité sur Vatican II? Bon, eh bien voilà. Oui.
Oui, je crois, pour en revenir à une période plus récente, oui. Il faut éviter de penser que les attaques contre la loi de 1905, contre la laïcité dans son principe, restent au niveau du discours. Et j'en prendrai deux exemples qui sont dans le domaine de l'enseignement, puisque vous avez indiqué qu'effectivement c'était un champ favori d'attaque des religieux de tout poil. Des choses qui ne sont pas très récentes et qui sont passées totalement inaperçues parce que c'est des choses qui sont prises par décret en Conseil d'État, sans débat au Parlement, etc. En particulier dans l'enseignement, c'est à la date de Chirac et ses deux premiers ministres successifs, jamais les collectivités territoriales n'ont été aussi assujetties qu'à l'heure actuelle, depuis la Deuxième Guerre mondiale, au financement de l'enseignement privé. C'est absolument faramineux. Quand on prend conscience de ces chiffres, on est absolument atterré. Alors, ajoutez à cela qu'un certain nombre de collectivités en remettent d'elles-mêmes, comme certaines assez proches de nous, et puis on arrive effectivement à ce type d'aberration. Autre chose plus récente qui montre effectivement que les discours de Latran, Riyad et Paris ne sont pas simplement des déclarations de principe ou des ballons d'essai, mais qu'il y a déjà entré en vigueur un certain nombre de mesures. Il a été pris à la rentrée universitaire dernière un décret au Conseil d'État qui autorise à qualifier comme enseignants du supérieur tous les gens qui proviennent des institutions d'enseignement supérieur privées et confessionnelles d'Europe, sans aucune autre forme de procès que ceux qui sortent de l'enseignement public supérieur français. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste dans la plupart des milieux. C'est probablement aussi une des raisons de la colère actuelle chez les enseignants-chercheurs et les chercheurs.
Je n'ai rien à ajouter à ce que vous venez de dire. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont des phénomènes effectivement importants. Ce n'est pas simplement au niveau du discours, c'est dans la pratique. Ça veut dire que la laïcité est effectivement continue à être un combat. Cela étant dit, c'est un combat qui a changé, me semble-t-il, même si l'école est un lieu de focalisation, c'est un combat qui a changé, me semble-t-il, de sens. C'est plus une question de pouvoir, même si la tentative d'instrumentalisation, notamment de la part du président de la République. Mais je pense que ça a changé de sens, c'est quand même plutôt une question qui relève de la vie en société, des valeurs de la vie en société. D'ailleurs, il a de la difficulté, Sarkozy, malgré ses discours, la laïcité positive, ça ne prend pas particulièrement, comme s'il y avait une laïcité négative et comme s'il y avait des courants. Oui. C'est absurde, quoi. C'est absurde, il n'y a pas de laïcité positive, c'est une antinomie, quoi. C'est un paradoxe, c'est un pléonasme, plus exactement, par la laïcité positive. D'autant que la laïcité, ce n'est pas une religion civile. Si on la conçoit comme une religion civile, qu'effectivement, ça commence à poser un problème. Puisque c'est une religion civile opposée à une autre religion. Non, c'est une neutralité. C'est un cadre dans lequel on peut poser les choses. Me semble-t-il, en tout cas. Moi, c'est la conception que j'en ai et que j'ai essayé d'exposer.
Justement, à propos de laïcité positive, est-ce que justement, vous avez aussi parlé de laïcité ouverte? De la laïcité plurielle, ça me semble aussi être des pléonasmes. Si on reprend vraiment le sens de la laïcité au départ, de la même façon que dans la Constitution de la Ve République, pourquoi ajouter la République est démocratique, laïque,
sociale,
j'ai pas tout appris par cœur encore.
Indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Sociale et respecte toutes les croyances. Oui. Alors que dans laïque, ça y est déjà. Parce que quand on respecte les croyances, est-ce qu'on respecte aussi les noms, enfin, le fait qu'on ne croit pas, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est une façon bizarre. Et justement, le sentiment que j'ai eu dans votre exposé, c'est qu'il y a eu un infléchissement à partir de ce moment-là, à peu près, du sens du mot laïcité. Où justement, le laïc, c'est celui qui refuse les religions. Enfin, on a assimilé le laïc au laïcard.
C'est ça.
Mais parce que tout simplement, il y a une espèce de guerre larvée qui a recommencé, où finalement, la religion, principalement la religion catholique, a cherché à reprendre quand même du terrain.
Du coup,
il y a une opposition du camp laïque et un infléchissement du sens du mot, finalement. On finit par oublier.
C'est un élément de réflexion, de discussion. Vous avez tout à fait raison de le poser. Je pense que ça, populaire. Il y a probablement du vrai dans ce que vous dites, qui est lié, à mes yeux, à ce qu'on a appelé le retour du religieux. Il y a un retour du religieux. Alors, le retour du religieux, c'est pas le retour des grandes religions structurées. On ne voit pas de nouveau les cathédrales débordées, les temples et les synagogues éclatées sous. Non, c'est en fait, je crois, ce que Bouguereau appelle l'individualisation de la religion, c'est-à-dire que chacun se fait sur la base de ses origines, de ses croyances originelles ou familiales, chacun se fait sa religion, son petit Dieu, ses petites valeurs, etc. Ça, c'est à mon avis une première chose, cette individualisation de la religion qui fait que, effectivement, il y a une sorte de retour de la religion. On prétendait malheureux cette phrase qui me semble-t-il totalement apocryphe, le 21e siècle sera religieux, ne sera pas. Ça ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs. Alors, tout le monde, vous trouvez n'importe quel journaliste dans le coin, l'Express, l'Observateur, ou Tutti Canti, des trucs qui disent « Ah, Malraux disait ceci ». D'abord, je ne pense pas qu'il l'ait dit, mais enfin, ça, peu importe. La question, c'est effectivement, derrière, c'est la question du sens.
Voilà.
Et ça, il y en a un qui l'a politiquement très bien saisi dans les trois discours que j'ai cités tout à l'heure, c'est Sarkozy. C'est la question du sens. Parce que, à la limite, je dirais que Sarkozy, il fait exactement comme Maurras. Lorsqu'on a lu les œuvres de Maurras, Maurras, il était païen. C'était un païen, il n'était pas catholique, Maurras. Il était de famille catholique, il était de confession catholique et compagnie. Mais ce qui l'intéressait, ce n'était pas le christianisme, qui était en plus une religion venue d'Orient. Donc les juifs, c'était l'Église, la structure politique que représentait l'Église. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été excommunié en 1926 et que ses œuvres ont été mises à l'index. Et après, c'est Pius qui l'a relevé en 1931 de cette excommunication. Mais effectivement, c'est la question du sens et Sarkozy. C'est un Maurrassien, à mon avis. C'est vraiment un Maurrassien au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on instrumentalise la recherche de sens, la quête de sens, contre un certain nombre de gens aujourd'hui. À travers, bon, par exemple, l'Église catholique en disant, écoutez, c'est merveilleux, jamais lorsqu'on explique les choses, dit Sarkozy, lorsqu'on explique la morale, ben, l'instituteur ne pourra pas passer le curé. Parce que ça donne du sens, comme si les mânes de Jules Ferry doivent s'agiter la lettre aux instituteurs. Il s'agissait de donner une morale civique qui expose les différentes position en présence, les différentes valeurs qui peuvent être embrassées par les hommes. Vous pouvez choisir cette liberté de choisir les valeurs. La laïcité le garantit. C'est pas un totalitarisme, c'est pas une théocratie. On retourne, malheureusement, avec Sarkozy, on retourne à cette idée d'un régime théocratique, c'est-à-dire où il y aurait une confusion entre la conviction intime du chef de l'État, il a parfaitement le droit d'être catholique. Et être catholique traditionnaliste, s'il veut d'adorer Monseigneur Lefebvre ou de ne pas l'adorer, je m'en fiche, ça n'a aucune chose d'important. Mais il n'a pas, dans les fonctions politiques qui sont les siennes, à en faire part. Voire même, ça s'est posé, le problème s'est posé, il se pose d'ailleurs dans des... Alors, parfois c'est dans des situations qui sont particulières. Pourquoi le jour de la libération de Paris, on a fêté une messe, enfin on a célébré une messe de Te Deum, adieu, donc Te Deum, à Notre-Dame de Paris, où tous les courants de la résistance, alors là, tous, y étaient. Bon, c'est un problème. Quand on enterre le président de la République, qui est catholique, bon, s'il était à propos de la République protestante, on l'enterre à Notre-Dame de Paris, et on fait un service religieux à Notre-Dame de Paris. Là, le général de Gaulle, de ce point de vue, bon, il n'était plus au pouvoir, d'accord, mais il avait décidé, il s'est fait enterrer dans sa paroisse, dans son village, point barre, il n'a rien demandé du tout. C'est le président de la République qui l'a succédé, c'est-à-dire Pompidou, qui a dit, on fera une messe de souvenir à Notre-Dame de Paris, comme ça je pourrais venir tout le monde. Mais c'est un problème. Mitterrand s'est fait enterrer chez lui. Mais on a fait une messe avec Chirac à Notre-Dame de Paris. C'est un véritable problème. On en revient à ce que l'historien polonais Kantorowicz s'appelle les deux corps du roi. C'est-à-dire le corps politique et le corps religieux. Le corps politique, il meurt, mais il est succédé, il se succède lui-même, puisque le roi est mort, vive le roi, puisqu'il y a élection, et là l'élection présidentielle, et le corps religieux, ça durerait éternellement. Il n'y a pas de corps religieux président de la République, à ma connaissance. Ou alors, on tue un sujet public, démocratique, et social. Je crois qu'il faut quand même le répéter, respecter toutes les croyances. Moi, je crois qu'il y a une croyance qui est importante, c'est celle de ne pas croire. Et c'est pas simplement un jeu de mots. Je crois que c'est bon de le dire. Vous savez, je travaille, mais en fait, j'ai depuis 20 ans, 25 ans, je suis dans un groupe avec des catholiques, on se voit une fois par mois, pour discuter de différents sujets, religieux ou pas religieux, qui s'appelle le service incroyance et foi de l'Église catholique, le CIF. Et alors, il y avait un de mes amis prêtres, qui a disparu aujourd'hui, qui disait le CIF, c'est pour nettoyer l'Église, le CIF ammoniacal, n'est-ce pas ? Et ça avait été créé d'ailleurs par Vatican II. Et dans ce service incroyance et foi, il y a toujours une question que je me suis posée, que j'ai toujours posée à mes interlocuteurs catholiques. Pourquoi vous dites qu'on est incroyant ? Moi, je me sens croyant, mais je ne me sens pas croyant en religieux. Moi, je crois aux valeurs humanistes, je crois je ne sais pas quoi, etc. Enfin, peu importe ce que je crois d'ailleurs, ça ne vous intéresse pas particulièrement. Mais pourquoi on me qualifie d'incroyant ? Croyant, c'est attaché à la foi. On peut croire beaucoup de choses qui ne sont pas liées à la foi. Ça, c'est un des problèmes. C'est un des problèmes. Ça me revient à Vatican II, j'avais oublié. Le pape Benoît XVI a supprimé le service incroyant, c'est pas, de l'Église catholique. Il l'a mis dans un service qui s'appelle Croyance et culture. C'est-à-dire qu'on supprime, d'ailleurs, du même coup, d'un coup de plume, du Vatican, d'un coup de crosse, comme on voudrait, le mot incroyance. Comme si c'était Satan qui était derrière.
Je crois voilà. Qu'en effet, on va abuser de l'hospitalité du Conseil général si on continue.
Bon, ben, bravo. Merci.